important, plus qu'en tout cas à l'élection précédente. J'ai tout à fait en tête, par exemple, le chiffre pour les étudiants, hein, qui sont normalement, qui devraient voter en tout cas un peu davantage, étant donné leur niveau de diplôme. Un tiers des étudiants, par exemple, n'a pas participé au premier tour.
Justement, donc, une toute petite question, Frédéric Savicky, sur les jeunes. Parce qu'il semblerait que, traditionnellement, les jeunes, les très jeunes, se portent spontanément vers des partis de gauche. Et ça aurait basculé à partir des années 90, cette adhésion comme ça, presque viscérale, spontanée, romantique, presque, à la gauche, chez les jeunes.
Alors, écoutez,
ça dépend dans du les années 80, culturel,
1981,
du capital,
c'était très net. Il y avait le vote pour le Parti communiste, pour le Parti socialiste, était très fort chez les jeunes. Mais l'idée que les jeunes seraient par nature, en quelque sorte, orientés à gauche, ma foi,
est une fausse idée.
D'abord parce que la situation économique, sociale, d'une partie de la jeunesse aujourd'hui n'est quand même pas forcément très enviable. Il y a aussi une attitude, effectivement, plutôt de radicalité qui peut se retrouver chez une partie de la jeunesse et qui la conduire à voter pour le Rassemblement national.
De plus en plus,
L'idéal nationaliste est quelque chose qui peut aussi exacerber, ou identitaire, peut aussi parler à une partie de la jeunesse, et ce, d'autant plus qu'elle s'estime effectivement particulièrement maltraitée sur
abandonnée.
Le fond de l'emploi ou sur le fond de l'insertion sociale. La distinction à l'intérieur de la jeunesse, elle est effectivement entre les diplômés, fortement diplômés, et ceux qui le sont au moins et qui s'estiment, au fond, sacrifiés. Dans la société actuelle, et il est difficile de leur donner totalement tort sur ce point.
Alors, on va savoir que Jean-Luc Mélenchon, admettons, le Mitterrand de 80, avait un programme social très fort avec des réformes sociales très spectaculaires. Maintenant, la gauche, depuis Martine Aubry en 1998 sous Jospin et la réforme des 35 heures, n'a plus porté de réformes sociales. Elle a plutôt porté des réformes sociétales, notamment le Pax avec Jospin, puis le mariage pour tous sous François Hollande. Est-ce que ce choix du passage du social au sociétal est un choix volontaire ou est-ce que c'est un choix subi? C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir d'influence sur l'économie, donc on essaye d'avoir une influence ailleurs.
Oui, alors bon, je pense que ce transfert n'est pas quand même aussi simple. Et puis je rappellerai qu'on n'a pas attendu 98, mais dès 1983, le fameux tournant de la rigueur, déjà infléchissait sérieusement le programme de la gauche, avec déjà les privatisations et toutes sortes d'interventions qui s'éloignaient un peu du programme commun et de cette politique sociale qui devait être menée. Donc cette désillusion, ce désenchantement des électeurs de la gauche, il est intervenu assez vite. Ce processus s'est mis en place assez vite, déjà dès la fin des années 80. Et je crois qu'effectivement, depuis, les crises sociales, économiques importantes que subissent nombre de segments de la population, les difficultés rencontrées par les jeunes, eh bien, n'ont pas trouvé dans les programmes de la gauche d'écho à leurs préoccupations premières. Rien n'a changé tellement sur le plan du chômage, sur le plan du pouvoir d'achat, sur le plan des conditions d'insertion sociale et professionnelle des jeunes, etc. etc. Et donc, effectivement, ce déport des thèmes porteurs mis en avant par la gauche sur les questions plus sociétales, a finalement coupé la gauche d'une partie, effectivement, de sa base électorale et aussi des jeunes. Là, je voulais dire que les jeunes restent quand même globalement plus à gauche que l'ensemble de l'électorat, mais simplement ils sont moins à gauche que dans les générations précédentes et notamment au temps de la génération Mitterrand.
Alors Nadia, on va évoquer l'écologie. Est-ce que l'écologie peut faire modifier quelque chose d'un point de vue électoral?
Oui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'écologie, c'est de plus en plus important aux yeux des Français, mais qu'il n'y a pas eu pour l'instant de traduction dans le scrutin phare de la Ve République, en l'occurrence donc l'élection présidentielle. Pour rappel, donc, le premier candidat écologiste à se présenter à ce scrutin, on va voir les images, c'était René Dumont, c'était en 1974. Il n'avait remporté que 1,32% des voix. Aux trois présidentielles suivantes, les candidats écolos ont obtenu entre 3 et 4% des suffrages. Le meilleur score à ce jour, ça reste Noël Mamère, c'était en 2002, avec un peu plus de 5%. Et puis dans le même temps, on le sait également, les écologistes obtiennent de bien, bien meilleurs résultats aux autres élections, à commencer par les européennes qui leur ont toujours été très favorables. On a aussi beaucoup commenté la spectaculaire percée écologiste et lors des dernières municipales, une vingtaine de villes, 2 millions d'administrés. Et il faut rappeler que le parti Europe Écologie Les Verts, c'est le parti aujourd'hui le plus populaire de France, avec 43% de bonne opinion, pardon, c'était un sondage Odoxa. Les Français sont aussi une majorité à estimer qu'il s'agit d'un parti d'avenir. Frédéric Savicky, l'écologie est-elle l'avenir de la gauche d'abord, et est-ce qu'on peut envisager un vert à l'Élysée dès 2022?
Alors je ne peux pas dire dans le boule de cristal. Je peux simplement dire que le problème des Verts, et ça se traduit dans les résultats électoraux que vous avez rappelés, c'est un problème de crédibilité à pouvoir proposer un projet de gouvernement qui ne soit pas simplement tourné vers l'écologie, vers la défense et la protection de l'environnement. Les Français ont de la sympathie pour les Verts parce qu'ils représentent au fond une espèce de gigantesque groupe d'intérêts de lobby pro-mesures environnementales. Ensuite, est-ce qu'ils sont prêts à considérer que c'est un parti qui est capable à la fois de gérer la réforme des retraites, faire face à la crise aux crises internationales
Comme les Verts allemands, par exemple.
Oui, voilà, mais on voit que les Verts allemands partent de très très loin. Ils ont déjà gouverné des Landes, des régions, et ce n'est que là, maintenant, peut-être, qu'on peut envisager...
Une chancelière du Parti Vert.
Et la France, enfin, les écologistes français, par rapport à cela, ont beaucoup de retard en matière d'expérience, notamment de gouvernement local. C'est pour ça que ce qui s'est passé dans les municipales des grandes villes est un moment intéressant, mais qu'il faudra resituer, à mon avis, dans un temps très long. Hein. Alors, évidemment, la conjoncture est favorable et on peut imaginer très très bien que le candidat vert fasse 8-10% à l'élection présidentielle, mais de là à imaginer qu'il puisse être seul et à rassembler toute la gauche, c'est compliqué, d'autant plus qu'il y a une partie quand même de l'électorat de gauche qui est quand même attachée à des questions de pouvoir d'achat, d'amélioration de la condition des conditions matérielles. Ils ne sont pas dans le poste matériel, ceux-là. Et il n'est pas évident qu'ils s'y retrouvent complètement dans un programme écologiste qui, pour l'instant, d'ailleurs, reste encore peu précis et peu connu des Français.
Une carte, parlons de l'Europe.
Une carte de l'Europe qu'on va faire évoluer européen. De 1999 à aujourd'hui. Donc en 1999, il y a 15 pays qui composent l'Union européenne et 12 d'entre eux ont des gouvernements de gauche. Aujourd'hui, il y a 27 pays dans l'Union européenne et simplement 6 d'entre eux sont gouvernés par la gauche. Est-ce que ça signifie, Anne Muxel, que de toute façon, un gouvernement de gauche ne peut même plus penser pouvoir peser sur Bruxelles et sur la politique européenne tant ils sont minoritaires ?
En tout cas, ça signifie bien que, à la fois au plan national, au plan européen, effectivement, la gauche souffre terriblement de ce fossé qui s'est créé entre ses bases électorales et les partis en question. Alors, je pense qu'il faudrait aussi tout de suite introduire que en Europe, en même temps, au fur et à mesure que la gauche recule, on voit aussi les pouvoirs populistes monter, les forces populistes monter. Et ce n'est pas n'est pas sans relation, hein, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure, d'un hiatus de plus en plus flagrant de certaines populations qui ne trouvent plus dans les partis de gauche effectivement un débouché politique à leurs préoccupations. Et les forces populistes, qui sont les porte-voix de la protestation, du malaise, d'un malaise identitaire, mais aussi d'un malaise social, économique, qui savent très bien jouer sur cette corde-là, eh bien évidemment, ont tendance à remplir cette fonction tribunicienne que remplissait par le passé le Parti communiste, et sont entendus et portés d'ailleurs bien souvent au pouvoir, y compris par les jeunes générations.
Frédéric Savicky, on peut parler de fin de cycle historique ou c'est simplement conjoncturel ?
Il y a une fin de cycle très probablement qui est européenne, mais dont on ne voit pas encore effectivement sur quoi elle pourrait déboucher.